VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 1er mai 2017. La force Barkhane a tué ou capturé une vingtaine de djihadistes ce week-end au Mali. Hué par les travailleurs sud-africains, Jacob Zuma a quitté précipitamment la fête du 1er mai. La CENI en RDC a reporté sine die l'enrôlement des électeurs dans deux provinces du Kasaï après le meurtre d'un chef d'antenne. Et l'absence d'enquête sur le meurtre de cinq cambistes en Ituri provoque la colère des jeunes de la région. Le Front Polisario prêt à entamer des négociations avec le Maroc sur le Sahara occidental. Et Donald Trump se dit prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un si les conditions étaient réunies. L'économie et les sports, ce sera juste après le journal. La force française Barkhane a tué ou capturé une vingtaine de djihadistes ce week-end dans la forêt de Foulsari au Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso, où un soldat français a été tué le 5 avril, a déclaré l'état-major. La force Barkhane mobilise 4000 soldats français au Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et en Mauritanie. La journée internationale du travail fêtée en Afrique du Sud dans un climat de confrontation entre le président et les syndicats, Jacob Zuma a dû annuler son discours du 1er mai après avoir été hué par des travailleurs à Bloemfontein, Abdourahmane Dia.
Les travailleurs qui s'en sont pris au président Jacob Zuma demandaient sa démission. Le mois dernier, la puissante centrale syndicale COSATU avait fait la même demande. Du coup, les discours prévus à cette occasion ont été annulés. Le président a quitté précipitamment les lieux. La semaine dernière, plusieurs organisations syndicales avaient déjà indiqué que le président Zuma ne serait pas le bienvenu à la traditionnelle marche du 1er mai. La COSATU, affiliée à l'ANC au pouvoir, a engagé un bras de fer avec le chef de l'État après le limogeage du ministre des Finances Pravin Gordhan, causant une dégradation de la note souveraine de l'Afrique du Sud par Standard & Poor's. Mais ces pressions des syndicats et une partie de la direction de l'ANC ne font toujours pas fléchir le président Zuma, qui a promis de rester au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat en 2019. Pendant ce temps, la bataille pour sa succession est déjà lancée. Le parti doit choisir son leader avant la fin de cette année.
La commission électorale en RDC a annoncé ce lundi avoir reporté sine die l'enrôlement des électeurs dans deux provinces du Kasaï après le meurtre du chef d'antenne de Dékessé dans le Kasaï central par des rebelles présumés. Philippe Yidimbe a été décapité le 3 avril à Ndékécha par des miliciens de feu Kamouina Nsapu alors qu'il se rendait à Chikapa dans le Kasaï pour y former des techniciens, a déclaré la CENI dans un communiqué. Après ce meurtre et des destructions de matériel électoral, l'enrôlement des électeurs dans ces deux provinces, qui devait commencer le 30 avril, a été reporté à cause de l'insécurité provoquée par la rébellion, a dit le président de la CENI, Corneille Nanga. Et dans le nord-est de la RDC, les meurtres en avril de cinq cambistes non élucidés provoquent depuis samedi des heurts entre manifestants et forces de sécurité. Les cambistes ont été tués par balles à bout portant séparément sur leur lieu d'échange d'argent à Mahagi dans la province de l'Ituri, frontalière avec l'Ouganda. L'absence d'enquête a provoqué la colère des jeunes de la région. Sahara occidental, le Front Polisario est prêt à entamer des négociations avec le Maroc sur la base du droit des Sahraouis à l'autodétermination. Le point avec Solange Niamoulissa.
Mohamed Kadad, un leader sahraoui, a précisé que ce conflit doit être traité conjointement par l'Union africaine et l'ONU. Selon lui, les négociations devraient aboutir à la liberté et à l'indépendance nationale. Le Front Polisario s'est retiré vendredi de Guerguerat, un no man's land à la frontière avec la Mauritanie. Fin février, le Maroc avait déjà annoncé son retrait de cette zone. Le Polisario avait refusé de quitter malgré un appel lancé par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Vendredi, le Conseil de sécurité a adopté une résolution soutenant une reprise des négociations sur le Sahara occidental. Ce texte prolonge également jusqu'au 30 avril 2018 le mandat de la MINURSO. Dès le lendemain, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, a salué cette résolution et a déclaré qu'aujourd'hui, il y a une dynamique.
Un soldat nigérian de la force déployée dans le delta du Niger a été tué et 3 autres blessés par un gang criminel dans l'état voisin d'Ondo, selon l'armée nigériane. Les troupes de l'opération Delta Safe ont repoussé la nuit dernière une attaque contre une position militaire près d'Ashkapa, a déclaré Aboubakar Adoulaï, porte-parole de la Joint Task Force. L'attaque a été menée par un chef de gang notoire, aussi Ibori, qui possède un repère dans la région, a-t-il ajouté. À l'occasion du 1er mai, le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé les syndicats de travailleurs à une trêve sociale afin de résoudre les questions restées en suspens après la grève des fonctionnaires de janvier. Ces derniers, qui menacent de reprendre le mouvement, demandent des augmentations salariales, le paiement d'arriérés de primes et contestent la réforme des retraites. Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a limogé hier soir les ministres des Finances et de l'Éducation, Lamia Zribi et Neji Jaloul, rapporte l'AFP. Madame Zribi est au cœur d'une polémique sur la dépréciation de la monnaie nationale, tandis qu'un syndicat réclame depuis des mois le départ de Monsieur Jaloul. De nombreux enseignants s'estimaient régulièrement insultés par les propos du ministre de l'Éducation, qui a toutefois, ses défenseurs louant son franc-parler sur les dépassements dans le secteur.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Human Rights Watch appelle le président américain Donald Trump à revenir sur sa décision d'inviter son homologue philippin Rodrigo Duterte à la Maison-Blanche. Timothée Donangmaï.
Le président Trump ne doit pas dérouler le tapis rouge à Rodrigo Duterte, mais plutôt lui demander des comptes, a fait savoir Human Rights Watch. Son directeur pour l'Asie, Felim Kain, accuse le dirigeant philippin d'avoir organisé des milliers d'exécutions extrajudiciaires dans le cadre de sa lutte contre les narcotrafiquants. Rodrigo Duterte fait l'objet d'une plainte à la Cour pénale internationale sur la base de telles allégations. Le président philippin assure que son gouvernement n'appuie pas ses exécutions extrajudiciaires, mais dans ses discours à la nation, il menace souvent de mort les trafiquants de drogue. Dimanche, la Maison-Blanche a défendu l'idée d'inviter le président Duterte. Selon Reince Priebus, secrétaire général de la présidence américaine, c'est dans le cadre des efforts du président Trump pour renforcer l'alliance internationale contre la menace croissante que pose la Corée du Nord.
Les États-Unis sont l'un des rares pays au monde à ne pas célébrer la fête du travail le 1er mai, mais des groupes de défense des droits humains et des syndicats ouvriers ont organisé des manifestations pour protester contre la politique migratoire de Donald Trump. Gabi Dorsil.
Depuis 2006, le 1er mai a été littéralement transformé en journée des immigrés aux États-Unis. Ce lundi, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à New York, Los Angeles, Chicago, Washington DC pour dire non à l'expulsion des sans-papiers. En plus des marches, des militants de certains États comme l'Indiana, le Massachusetts et le Texas ont aussi lancé un appel à un arrêt de travail. Des organisateurs ont demandé aux immigrés de ne pas aller travailler, de ne pas envoyer leurs enfants à l'école et de rester loin des centres d'achat. L'idée était de démontrer aux Américains à quoi ressemblerait une journée sans immigrés. Selon Kit Samatos, porte-parole du mouvement pour une réforme juste de l'immigration, depuis l'élection de Donald Trump, le soutien populaire à la cause des étrangers s'est considérablement accru. Tom Wong, un politologue de l'Université de Californie à San Diego, croit que l'attention du nouveau pouvoir à la question migratoire joue en faveur des mouvements pro-immigrés aux États-Unis.
L'armée syrienne a utilisé des gaz neurotoxiques dans l'attaque présumée à Khan Cheikhoun et 3 autres offensives qui lui sont imputées, affirme Human Rights Watch. Il y a une tendance claire à l'utilisation d'armes chimiques qui pourraient valoir au régime syrien d'être poursuivi pour crimes contre l'humanité, souligne l'organisation. L'attaque présumée du 4 avril qui a fait 88 morts a provoqué l'indignation de plusieurs pays qui mettent en cause le régime de Bachar al-Assad. Et Moscou réfute les accusations. Le président américain Donald Trump serait prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un si les conditions étaient réunies, a-t-il affirmé aujourd'hui. Je serai honoré de le faire, dit-il dans un entretien à l'agence Bloomberg, sans précision sur les critères qui pourraient le pousser à prendre une telle décision. Le climat s'est particulièrement détérioré en Corée ces derniers mois du fait de la poursuite par Pyongyang de ses programmes balistiques et nucléaires. La Corée du Nord a averti ce lundi qu'elle était prête à mener à n'importe quel moment un sixième essai nucléaire. Et la ville de New York devrait se faire rembourser par l'État fédéral des dizaines de millions de dollars de frais engagés pour protéger le président Donald Trump et sa famille depuis son élection. C'est félicité aujourd'hui le maire Bill de Blasio. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Commémoration de la fête internationale du travail ce 1er mai sur le continent. À Douala, au Cameroun, les syndicats ont dénoncé le dialogue de sourds avec le gouvernement lors de manifestations appelant à plus de cohésion sociale. Dans une interview à l'agence APA, Isaac Bissala, le président de l'Union Générale des Travailleurs du Cameroun, a regretté que le dialogue social n'existe pas dans les entreprises qui privilégient la répression. Dans son discours du 1er mai, Alassane Ouattara a annoncé la réduction d'environ 5% du budget de chaque ministère en raison de la chute des cours du cacao sur le marché mondial. Le chef de l'État ivoirien a précisé que des investissements seront également revus à la baisse, comme la construction d'écoles ou de centres de santé, ou la fourniture en eau potable. Il a ajouté que le programme d'électrification des villages de plus de 500 habitants, qui devait être achevé en 2017, sera reporté à 2018. La Chine parie sur le Maroc. La Banque centrale chinoise a conclu un accord d'échange dirham-yuan de 1,5 milliard de dollars. Un fonds d'investissement sino-marocain d'un milliard de dollars a été lancé par le groupe chinois AIT, Morocco China International et le groupe marocain BMCE, Bank of Africa. Et la société de télécommunications Huawei a installé son nouveau siège pour la région Afrique francophone à Casablanca.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors en football, la FIFA a levé la suspension prise à l'encontre de la FEMAFOOT, Fédération malienne de football.
Oui, cette suspension était une réaction de la FIFA après la dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football par le ministre des Sports le 8 mars dernier. Et dans son communiqué signé par son secrétaire général Fatma Samoura, la FIFA rappelle avoir pris acte de la décision du ministre des Sports de revenir sur la dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football et de son remplacement par un comité provisoire chargé de gérer les affaires courantes.
Une info qui fait la une des médias en ligne au Burkina Faso.
Oui, là-bas, la presse raconte depuis ce matin qu'Hervé Kofi Kwaku, le portier actuel de l'ASEC d'Abidjan et qui avait beaucoup fait parler de lui lors de la CAN 2017 en tant que gardien des étalons, qu'il portera donc les couleurs de Lille en Ligue 1 française à partir de la saison prochaine. D'après nos confrères, l'ASEC d'Abidjan et le club français seraient parvenus à un accord pour un pré-contrat de 5 ans.
Le nouveau sélectionneur de la Tunisie vise le mondial.
Oui, Nabil Mahloul s'est fixé lors de la présentation à la presse ce lundi pour objectif la qualification mondiale 2018, qui serait la première participation des Aigles de Carthage à une phase finale depuis 2006. Mahloul, âgé de 54 ans, qui avait déjà dirigé la sélection durant quelques mois en 2013, a été nommé jeudi dernier à la suite du limogeage du technicien franco-polonais Henri Kasperzak.
Et le CHAN 2018 Bagassi avec le Soudan du Sud au deuxième tour.
Oui, le Soudan du Sud qui s'est imposé 2-0 à domicile lors du match retour, comptant pour les éliminatoires de ce CHAN 2018. À l'aller, les Soudanais avaient gagné la Somalie 2-1. Le Soudanais du Sud croisera en juillet l'Ouganda au deuxième tour.
Et demain, on a la première demi-finale de la Ligue des Champions.
Oui, avec ce derby entre Madrilènes, le Real Madrid contre l'Atlético au stade Santiago Bernabéu. Les rivaux de la capitale espagnole se retrouvent en C1 pour la quatrième fois en 4 ans après les finales 2014 et 2016 et les quarts 2015 qui ont tous souri au Real, actuel tenant du titre.
Enfin, en NBA, début ce soir des demi-finales.
Oui, hein, dans les conférences Est, Toronto affronte Cleveland à 19h heure locale, tandis que dans la conférence Ouest, à Houston, qui va en découdre avec les Spurs de San Antonio à 21h30.
Un grand merci Bagassi pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Atmosphère de fin de règne en Afrique du Sud, où le président Jacob Zuma a dû annuler sa participation aux célébrations de la fête du travail. Les travailleurs lui ont signifié qu'il n'était pas le bienvenu. Pendant ce temps, la lutte pour sa succession s'intensifie au sein de l'ANC, son parti. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse du professeur André Thomashausen de l'Institut du droit international et comparatif à l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
L'opposition contre le président Zuma a monté à un niveau même de fièvre et il est un peu isolé dans le parti. Il y a presque plus de factions qui l'appuieraient ouvertement. Il a évidemment encore des clans, des cercles qui l'appuient parce qu'il s'intègre avec lui dans des intérêts économiques et des intérêts d'affaires. Mais politiquement et dans la politique de base, il a vraiment perdu beaucoup d'appui. Surtout la grande fédération des syndicats, la COSATU, a décidé de joindre ceux qui demandent la démission de Zuma.
C'est un sérieux revers pour le président sud-africain. Que va-t-il faire?
C'est parfois la tragédie des présidents qu'après quelques années dans le pouvoir, ils perdent le sens de la réalité et ils n'arrivent pas à comprendre que les affinités et les préférences des électeurs peuvent changer fondamentalement. Et pour Zuma, vraiment, c'est la fin de son pouvoir. Il est encore le président, formellement. Il peut organiser des délais pour un vote secret dans l'Assemblée nationale avec un vote de la majorité simple des députés pourrait provoquer la démission de Zuma. Sauf que pour que cela arrive, il faudrait avoir un accord préalable que la votation soit secrète parce que les députés de l'ANC qui appuieront un vote de non-confiance en Zuma auront un peu peur. Ils se sentiront intimidés de faire ça avec un vote ouvert.
La lutte pour la succession du président Zuma s'intensifie avec notamment ce duel entre Cyril Ramaphosa et Nkosazana Dlamini Zuma. Comment voyez-vous cette confrontation?
Bon, il n'y aura pas de majorité ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense pouvoir dire que peut-être 35% des délégués de l'ANC pour une conférence. D'ailleurs, il y a une conférence à venir en mois de septembre. Et avant, maintenant, ce mois-ci, au moins, en mois de mai, il y aura une réunion très importante de définition politique, de réflexion politique. Je pense que la madame Dlamini Zuma, l'ancienne épouse du président Zuma, pourra rassembler peut-être 35% des délégués. Et M. Ramaphosa, peut-être aussi une trentaine ou 35, peut-être 40%. Mais il n'y aura pas un front uni dans le parti pour le choix d'un nouveau président.
Le professeur André Thomashausen était joint à Pretoria en Afrique du Sud.
Dans Washington Forum ce jeudi, la journée mondiale de la liberté de la presse. Après les baisses d'audience parmi les médias traditionnels, la diminution des profits et les allégations d'une déconnexion croissante entre les médias et leur public, la prolifération des fausses informations et les faux reportages sont les défis les plus récents auxquels fait face le secteur. Où en est la liberté de la presse à travers le monde? Comment défendre l'indépendance des médias? Ou comment se portent les médias dans votre pays? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Timothée Donangmaï et ses invités.
à l'occasion de la fête du 1er mai en Côte d'Ivoire. Le discours du président Alassane Ouattara était très attendu. Les fonctionnaires ivoiriens menacent depuis quelques jours de déclencher une nouvelle grève générale et le feu couve également dans les casernes militaires. Et voici un reportage de notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Depuis quelques mois, le gouvernement ivoirien fait face à une grande fronde sociale. Les fonctionnaires ont observé plusieurs mouvements de grève pour exiger notamment le paiement d'arriérés de révalorisation des salaires. Quant aux soldats, ils sont descendus dans les rues de plusieurs villes du pays pour réclamer le paiement de primes. Des mouvements d'humeur qui ont secoué le pays et fragilisé le pouvoir ivoirien. Alors que les fonctionnaires menacent d'appeler à une nouvelle grève et que les militaires attendent le paiement de leurs primes, le discours de ce 1er mai du président Ouattara était très attendu.
J'ai été meurtri par la forme inédite de ces manifestations que je condamne. Les Ivoiriens et la population vivant chez nous ont été effrayés. L'administration a été bloquée et les activités économiques perturbées. Aucune revendication, quelle qu'en soit la légitimité, ne doit remettre en cause la marche de notre pays vers le développement.
Sur les revendications des fonctionnaires, notamment le paiement des arriérés et de revalorisation des salaires, le président ivoirien se donne du temps pour, dit-il, tirer tout au clair. En revanche, pas un mot sur celle des soldats qui s'étaient mutinés en janvier dernier.
Il est important que cette question soit clarifiée, que nous puissions avoir la totale clarté, que les discussions donc se poursuivent entre les centrales syndicales et le gouvernement en vue de me remettre des conclusions pour la fin du mois de juillet au plus tard. J'approuve totalement l'appel du gouvernement à une trêve sociale.
Le discours du président Ouattara semble avoir laissé certains dirigeants syndicaux sur leur faim. Théodore Nyanyazadi.
Nous avons un sentiment mitigé. Dans tous les cas, nous avons mené une lutte. Des choses ont été faites par l'État. Et en dernier ressort, les mesures de rétorsion qui frappaient près de 400 de nos camarades ont été levées. Pour cela, nous félicitons déjà, n'est-ce pas, le gouvernement pour avoir réagi ainsi. Mais sur la question principale, n'est-ce pas, du stock des arriérés, nous restons sur notre faim. Nous attendions aujourd'hui une reconnaissance et un chronogramme clair de paiement. Nous avons été surpris que actuellement, on nous dit encore qu'on veut voir clair dans cette affaire.
Les syndicalistes ivoiriens ont saisi l'occasion de cette fête du travail pour dénoncer également la cherté du coût de la vie et l'insécurité liée à des gangs d'adolescents que l'on appelle ici les microbes. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Depuis le 6 février au Mali, le collectif des enseignants du Nord est en grève illimitée. Cela a pour conséquence la fermeture de toutes les écoles publiques dans la région. Malgré les démarches des responsables de l'éducation et de la société civile au niveau local, les syndicats ne fléchissent pas. Les candidats aux différents examens appellent à l'aide. Notre correspondant à Gao a tendu son micro à des élèves et parents d'élèves.
L'année scolaire 2016-2017 a été fortement perturbée dans la région. Le collectif des enseignants du Nord est en grève illimitée depuis le 6 février dernier. Et pourtant, les examens sont annoncés pour très bientôt. Voici la réaction de quelques personnes interrogées.
J'étais au Moro, Sanébé, classe 9e année. Le gouvernement n'a qu'à trouver une solution pour ça, pour que les enseignants viennent nous enseigner. Sinon, le DEF, là, ça sera très difficile. Les professeurs qui sont en grève, je les dis seulement de fait tout pour qu'ils viennent donner un peu de coup, même si le gouvernement ne les a pas payés.
Ahimir Daouda Mega, GFM de Gao. Je laisse vraiment un appel à l'autorité compétente, vraiment de faire tout pour qu'ils nous aident vraiment à surmonter vraiment ces problèmes.
Mohamed Aboubakar Touré, lycée Yana Mega, termination sociale. Nous, quand même, on n'est pas prêts. Je veux que le gouvernement repousse les dates d'un mois ou bien de deux mois.
Hadija Mohamed, je suis candidate au bac, juste pour les enseignants, quoi. Si le gouvernement nous aimait, voulaient, comme ils le disent, ils allaient répondre aux enseignants. Le gouvernement n'a rien à voir avec ça. Leurs enfants ne sont pas au nord. Qu'on fasse tout pour sauver l'année, puisqu'on ne veut pas d'année blanche vraiment.
Moi, je me nomme Ali Abdourahmane Maïga, école fondamentale de Sanébé. Il y a beaucoup de syndicats. Les magistrats se gèrent, les hôpitaux se gèrent, mais sans éducation, qu'est-ce que c'est qu'un État? Les Maliens de demain, c'est nous. Et si on n'étudie pas, l'État n'a qu'à chercher une solution.
Je m'appelle Douda Meïga. Nous, nous sommes les parents d'élèves. À ce titre, nous sommes vraiment confiés et inquiets. Les enfants à Gao n'ont fait que 3 mois de cours. Et on leur demande de faire des examens. Quel examen pourront-ils faire dans de telles conditions? L'État veut sacrifier nos enfants ou quoi? Quant aux enseignants, que l'on comprenne que ce sont les enfants à nous tous.
En réalité, l'école s'est confiée à nous qui sommes à Gao. Est-ce qu'il y a un enseignant qui peut dire qu'il n'a pas d'enfants à l'école?
Mohamed Ibrahim Touré. On peut bien sauver l'année scolaire. Si on décale, c'est une bonne chose parce que là, ça permet de mettre le paquet. Moi, je crois que c'est bien possible.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Suite de notre série de reportages sur la situation humanitaire autour du lac Tchad, parlons ce soir des civils nigérians qui ont fui Boko Haram pour se réfugier au Tchad. Beaucoup sont des pêcheurs qui tentent de poursuivre leurs activités sur le lac. Nicolas Pinault, envoyé spécial de VOA Afrique au Tchad, les a rencontrés.
Au petit matin, les bords du lac Tchad ne sont pas silencieux, au contraire. Dans le village de Tagal, on s'active pour nettoyer les poissons attrapés pendant la nuit. Les pêcheurs des réfugiés nigérians tentent de mener une existence similaire à leur vie d'avant, avant les attaques de Boko Haram. Okacha Seydou, 14 ans, originaire de Dorandbaga, village nigérian attaqué par les djihadistes en janvier 2015.
Ma vie d'avant me manque. Je suis un pêcheur et la vie ici n'est pas facile. J'ai des amis qui sont restés au Nigeria, ils me manquent.
Les réfugiés nigérians cohabitent pacifiquement dans ce village de Tagal, où les habitants tchadiens leur louent les bateaux et les filets nécessaires pour pêcher. Une location qui coûte cher, puisqu'en moyenne, il faut reverser un tiers de la pêche quotidienne aux propriétaires du bateau. Mohamed Michael est un pêcheur nigérian.
On paie pour tout, pour aller pêcher, pour le filet, pour le bateau. C'est dur. Quand les conditions et la paix seront revenues, on rentrera au Nigeria.
Ce matin-là, sur sa pirogue, on croise aussi un colosse, Abakar Maïga. Avec son débardeur jaune, ce Malien originaire de Gao explique qu'il a quitté son pays depuis les années 90 pour exercer son activité de pêcheur.
Tout le monde sait pourquoi nous sommes là. C'est à cause de Boko Haram. Je suis un pêcheur au Mali. Je ne pouvais pas pratiquer la pêche. Donc je suis venu ici. Je n'ai pas d'autre source. Je ne vis que pour ça.
Depuis les premiers attentats de Boko Haram en territoire tchadien à l'automne 2015, la sécurité s'est grandement améliorée dans la zone du lac Tchad et les habitants de Tagal savourent ce retour au calme. On écoute l'un d'entre eux sur VOA Afrique, Ali Mborou.
Avant 2015, on avait un peu peur, mais maintenant Boko Haram est retouché jusqu'au niveau des frontières, donc maintenant il n'y a rien. On n'a pas peur, on dort bien la nuit.
Il est déjà 10h du matin, ce jour-là à Tagal. Les pêcheurs nigérians prennent leur repas avant d'aller dormir. Une nouvelle nuit blanche à pêcher les attend en fin d'après-midi sur le lac Tchad. Nicolas Pinault, Tagal, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma. À la console, Souleymane Tarawale. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.